Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis Myriam Victor et je suis ravie de vous accueillir pour cette dernière webconférence avant la coupure estivale. Donc, cette webconférence est à destination des élus de CSE, des chefs d'entreprise, des responsables de ressources humaines. Et nous allons parler pendant 45 minutes du document unique d'évaluation des risques. Donc, quelques mots pour présenter Jury Travail à ceux qui ne nous connaissent pas. Donc, Jury Travail, en fait, est le leader de l'information juridique en ligne. C'est tout d'abord des articles sur l'actualité juridique, mais c'est également un abonnement qui vous donne accès à une base documentaire juridique rédigée dans un langage clair. Cet abonnement vous donne également accès à de nombreux modèles de courriers ou de contrats. Et il vous donne également accès à notre équipe de juristes basée à La Rochelle, qui répondent à toutes vos questions par téléphone. À la fin de la webconférence, je vous proposerai de tester notre service en posant votre première question gratuitement. Jury Travail, c'est également un réseau d'avocats auquel appartient Maître Lessol Auger, avocat au barreau de Toulouse, que nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui. Bonjour à vous, Maître, et merci d'être parmi nous.
Bonjour, je vous remercie. Bonjour. Bonjour à tous.
Alors, comme d'habitude, si vous souhaitez poser des questions, une de mes collègues, Alice, juriste, est chargée de vous aiguiller vers nos articles ou dossiers dans la fenêtre de chat. Vous pouvez y accéder via la barre de configuration qui doit apparaître soit en bas, soit à côté de votre écran, via un bouton avec une petite main ou une bulle de chat. Nous avions mis à votre disposition un formulaire en amont de cette webconférence afin que vous nous envoyiez vos questions. Nous les avons donc transmises à Maître Lessol Auger, qui va y répondre au cours de cette webconférence. Nous avons prévu 45 minutes et nous devrions nous y tenir. Donc, vos questions ont été regroupées sous différentes thématiques. Donc, tout d'abord, le contenu du DUER, le rôle du CSE et de la CSSCT dans la création et la mise à jour du DUER. Vous avez été également nombreux à nous demander qui doit le rédiger et à qui le communiquer. Et enfin, nous terminerons avec des exemples de jurisprudence en lien avec le DUER. Donc, entamons cette première partie sur le contenu du DUER avec quelques premières questions. Le DUER est-il obligatoire dans toutes les entreprises, quelle que soit leur taille? Et une autre question qui nous avait été envoyée de quelqu'un qui travaillait pour une entreprise qui venait de se créer, qui se demandait au bout de combien de temps après la création de l'entreprise devait-elle créer ce DUER? Dernière question qui nous est parvenue également. Dans le cadre des entreprises qui auraient plusieurs sites, est-ce qu'il doit y avoir un DUER par établissement? Nous vous écoutons, Maître.
Oui, je vous remercie. Alors, comme d'habitude, il faut toujours partir des textes. Et en la matière, les textes qui sont contenus dans le Code du travail sont assez peu nombreux. Ils sont regroupés sous quelques articles. C'est les articles R4121-1 et suivants du Code du travail. Donc, le premier de ces textes nous dit que l'employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application des dispositions de l'article 4121-3. Qu'est-ce qu'on doit en tirer comme conclusion? C'est que ce document, il est obligatoire, quelle que soit la taille de l'entreprise, donc il n'y a pas de seuil d'effectif, et que cette obligation, elle s'impose dès lors que vous embauchez votre premier salarié. Par ailleurs, il n'y a aucun délai spécifique qui soit laissé à l'employeur pour procéder à la rédaction de ce document unique d'évaluation des risques. Donc, il faut considérer que cette obligation, elle est effective dès le moment où vous avez procédé à l'embauche de votre premier salarié. Ensuite, sur la deuxième partie de la question, sur le fait d'avoir plusieurs documents, si on a une entreprise, il y a plusieurs établissements, en fait, il faut raisonner en matière de démarche d'évaluation des risques, où la jurisprudence considère de manière assez constante qu'à partir du moment où une entreprise dispose de plusieurs établissements, rien n'oblige l'employeur à avoir une démarche d'évaluation des risques qui soit centralisée. Et au contraire, il est plus que conseillé d'avoir une démarche d'évaluation des risques qui se fasse établissement par établissement et qui soit retranscrite unité de travail par unité de travail. C'est cette notion d'unité de travail dont on parlera tout à l'heure qui, en fait, sert de référentiel à l'établissement du document unique d'évaluation des risques. Et après, formellement, évidemment, à partir du moment où vous êtes une entreprise qui est dotée de plusieurs établissements, pour permettre l'accès des salariés de ces différents établissements aux documents uniques, il faut évidemment qu'un exemplaire, alors soit papier, soit informatisé, parce que là, la forme est libre, soit accessible aux travailleurs de ces différents établissements.
Très bien, merci beaucoup, c'est très clair. Donc, dès le premier salarié embauché, le DUER doit être établi. Alors, le contenu du DUER, varie-t-il en fonction de la taille des entreprises? Est-ce qu'il y a, entre autres, j'avais reformulé un petit peu la question, on a beaucoup de TPE qui, de responsables de TPE qui nous écoutent et qui se demandaient s'il n'y avait pas une formule un peu plus light pour les toutes petites entreprises.
Alors, là encore, en réalité, les textes ne font pas vraiment de différence entre une très grande entreprise et une petite entreprise. Après, formellement, effectivement, quand vous êtes une petite entreprise qui a une activité unique et qui n'a qu'un seul site, par définition, la démarche d'évaluation des risques que l'employeur va mener va être plus simple que dans le cas d'une entreprise qui a plusieurs activités, plusieurs unités de travail, plusieurs établissements. Mais après, formellement, encore une fois, sur le plan de la présentation, les obligations sont les mêmes et il n'y a pas de document unique allégé si vous êtes une petite entreprise.
Très bien, merci beaucoup. Alors, que doit impérativement contenir ce DUER ? Est-ce qu'on doit à chaque fois, pour chaque risque, faire apparaître systématiquement la fréquence, la gravité, la criticité, et doit-on mentionner le délai de mise en œuvre des actions de prévention prévues ainsi que le nom de leurs responsables?
Alors, on va le voir en réalité, encore une fois, si on s'en réfère au texte, les obligations la norme minimale du document unique, elle est relativement simple. On vous dit, le document unique doit comporter un inventaire des risques par unité de travail, c'est-à-dire l'identification des dangers qui peuvent causer un dommage pour la santé et la sécurité des travailleurs, et l'analyse des risques qui résultent de l'étude des conditions d'exposition des travailleurs aux dangers. Ça, c'est le minimum légal et syndical. Alors, je m'arrête deux secondes sur cette notion d'unité de travail parce que c'est pas une notion très simple en soi. Évidemment, les contours ont été définis progressivement. On a notamment une circulaire de 2002 qui est venue préciser ce qu'on devait entendre par cette notion d'unité de travail, qui ne se confond pas nécessairement avec l'établissement. La notion d'unité de travail, elle doit être comprise au sens large pour recouvrir des situations très diverses d'organisation du travail. Donc, elle peut s'étendre soit à un poste ou à plusieurs types de postes occupés par les travailleurs, à des situations de travail qui présentent les mêmes caractéristiques. Ça peut être une notion géographique, mais pas nécessairement. Ça peut couvrir des lieux différents. Donc, l'idée, c'est évidemment d'avoir une notion très concrète et très pragmatique, d'être au plus près des différentes situations de travail qui existent dans l'entreprise. Donc, on pourra évidemment prendre un critère géographique, on pourra prendre un critère de métier et de poste, on pourra prendre aussi un critère d'autonomie et une communauté de travailleurs qui exercerait leurs activités de manière similaire. Donc ça, c'est la notion d'unité de travail et c'est sur celle-là que se concentre l'évaluation des risques. Donc ensuite, comme je vous le disais, sur le contenu du document unique à proprement parler, les deux obligations, en réalité, c'est d'identifier les dangers et d'analyser les risques. Ça, c'est le principe de l'évaluation des risques. Ensuite, évidemment, à partir du moment où les textes ne sont pas plus précis que ça, on incite bien entendu les entreprises à aller au-delà et on peut évidemment ajouter des informations complémentaires puisque évidemment le document unique sert de point d'amorce et de point de départ ensuite à une vraie démarche de prévention. Donc plus il va être développé en réalité et plus il aura un intérêt concret pour l'entreprise. Donc généralement et en pratique, on recommande trois phases qui sont menées conjointement dans la plupart des établissements. On a d'abord évidemment cette évaluation des risques dont je vous parlais tout à l'heure, voilà, qui est le minimum obligatoire. Ensuite, on peut ajouter un classement des risques. Donc, pour répondre à la question qui était posée, c'est pas une obligation, mais c'est conseillé évidemment. On fait une notation des risques identifiés en leur donnant une valeur avec des critères propres. Alors, la probabilité d'occurrence, la gravité, la fréquence, le nombre de personnes concernées. Et ensuite, à partir de ces critères qu'on a définis, on va classer les risques pour définir des priorités d'action. Le troisième axe possible, j'allais dire le troisième item possible de ce document unique, c'est des propositions d'action de prévention à partir de justement cette priorisation des risques qu'on aura définie. Et ces propositions d'action de prévention, elles interviennent en concertation avec les représentants du personnel. Par ailleurs, vous avez aussi la possibilité de conserver en annexe de ce document unique des informations qui n'ont pas nécessairement vocation à figurer dans le corps du document. Ces données sont des données qui sont collectives, utiles à l'évaluation des expositions individuelles aux facteurs de risque. Et qui vont vous permettre, par exemple, de faciliter l'établissement des fiches de prévention. Et deuxième type d'information que vous pouvez conserver en annexe à ce document unique, c'est les proportions de salariés qui sont exposés aux facteurs de risque professionnels qui sont visés à l'article 41-61 du Code du travail, en prenant soin, évidemment, d'actualiser la proportion de ces salariés exposés.
D'accord, très bien. Alors, juste une petite précision, l'exposition individuelle aux facteurs de risque, c'est bien ce qu'on appelait les facteurs de pénibilité auparavant.
Absolument, ouais.
On aime toujours changer les appellations régulièrement des choses qui sont bien connues et bien comprises par tout le monde. Donc, je voulais juste le préciser pour tout le monde. Alors, nous avons eu également de nombreuses questions sur les risques psychosociaux et les risques liés au harcèlement. Doivent-ils être abordés dans ce DUER et si oui, comment le faire? Et même question à propos des facteurs de pénibilité, mais vous avez un petit peu répondu juste avant.
Oui, alors en réalité, qu'on soit, j'allais dire, sur le plan du risque strictement physique, pour un salarié ou sur le plan des risques psychosociaux, les obligations pour l'entreprise, elles sont exactement les mêmes. C'est-à-dire que l'employeur, pour le harcèlement moral, sexuel, pour les facteurs de pénibilité, qu'ils soient encore une fois psychologiques ou physiques, eh bien, l'employeur doit avoir la même démarche et évidemment intégrer ces risques dans l'évaluation des risques destinés à établir le document unique d'évaluation. Donc, absolument.
C'est effectivement très important de les faire figurer. Alors, on n'a jamais entendu autant parler du DUER que depuis le début de cette crise sanitaire, puisqu'on a martelé sans cesse qu'il fallait mettre à jour le DUER et prendre en compte les risques liés au virus. Quelle mention faire paraître dans le DUER, précisément, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller sur ce sujet?
Avec justement l'apparition de cette pandémie de coronavirus, le gouvernement a précisé dans le cadre d'un protocole qui est paru le 1er septembre 2020, l'obligation pour les employeurs d'actualiser, donc de faire figurer au sein de ce document unique les risques liés à cette pandémie particulière, qui après évidemment vocation à être déclinée pour toutes les autres, mais enfin, à l'heure actuelle, c'est donc la pandémie de Covid-19. Dans ce cadre-là et au sein de ce protocole, il est expressément prévu des ajouts donc spécifiques au Covid, notamment l'information et la sensibilisation des travailleurs, la réorganisation du travail et des flux pour respecter les règles de distanciation, la gestion et le suivi des installations d'aération, ventilation, moyens de protection, donc les masques, les écrans de séparation des postes de travail, etc. Et le nettoyage et la désinfection des locaux. Ça, c'est ce qui est prévu par ce protocole du 17 septembre 2020 dont je vous parlais, qui est le minimum. Après, évidemment, encore une fois, et dans la logique de ce que je vous disais précédemment, libre à chaque employeur d'aller au-delà de ses obligations et de préciser, encore une fois, les critères. Mais en tous les cas, ça, c'est le minimum et c'est une obligation que le gouvernement a expressément mis à la charge des employeurs, une obligation d'actualisation.
Très bien. Alors, une question qui est revenue aussi assez fréquemment de la part des employeurs ou des responsables de ressources humaines, comment être certain de ne pas avoir oublié de mentionner un risque dans le DUER ? Et doit-on également mentionner des risques liés au télétravail ? C'est une question qui nous a été posée il y a quelques minutes sur le chat.
Alors, je commence par le télétravail. Oui, le télétravail, c'est une forme de travail. Et j'allais dire, comme n'importe quelle forme de travail, là encore, les risques qui sont générés par ce type de pratique doivent être inclus au sein du document unique. Ça, il n'y a pas de discussion possible. Ensuite, malheureusement, être certain qu'on n'a jamais oublié le moindre risque, c'est impossible, tout simplement parce que lorsqu'une entreprise se crée, elle peut être exposée à certains types de risques, et puis d'autres risques vont apparaître, certains vont disparaître. Donc, c'est extrêmement difficile d'être très exhaustif. Et c'est pour ça qu'évidemment, il est conseillé de prendre l'aide et l'appui de toutes les sources possibles, qu'elles soient internes ou externes. Alors, quand je dis internes, c'est évidemment les élus au comité central d'entreprise quand il existe. Ça peut être évidemment en externe la médecine du travail, la CARSAT, des entreprises privées. Enfin, il faut évidemment multiplier les sources d'informations pour essayer d'être le plus exhaustif possible lorsqu'on établit et quand on met à jour ce document unique. Parce qu'encore une fois, même si l'employeur est le seul responsable de l'établissement de ce document, évidemment que rien ne lui interdit de prendre de l'aide auprès de tous les organismes, entreprises compétentes en la matière.
Très bien. Alors justement, vous parliez d'évolution d'entreprise et d'évolution des risques. Donc, nous allons parler maintenant de la mise à jour de ce document unique d'évaluation des risques. À quelle fréquence doit-on faire ces mises à jour ? Est-ce que c'est tous les ans ? Est-ce qu'à chaque accident du travail qui intervient dans l'entreprise, on doit le remettre à jour ? Et encore une fois, les responsables de TPE nous ont demandé si cette fréquence de mise à jour pouvait être moindre pour les TPE.
Alors là, sur ce point précis, le Code du travail est lui-même très précis sur la fréquence de mise à jour du document unique. Et cette fréquence, elle est identique, quelle que soit la taille de l'entreprise, donc pas d'obligation allégée pour les TPE. Le Code du travail nous dit, quelle que soit la taille de l'entreprise, le document unique, la mise à jour pardon, du document unique doit être réalisée au moins chaque année, ou alors lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail, et qui porte notamment sur les postes de travail, l'outillage, les produits, l'organisation du travail les cadences et les normes de productivité. Ou alors, dernière possibilité, lorsqu'une information supplémentaire concernant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie. Typiquement, quand on est confronté à une situation d'accident de travail particulière dont le risque n'avait pas été envisagé auparavant. Donc, pour chacune de ces situations, eh bien, une mise à jour du document unique s'impose. Donc voilà, j'allais vous dire à minima une fois par an, voire davantage quand des situations un peu particulières se présentent. Et quelle que soit la taille de l'entreprise.
Et oui, désolée pour les responsables de TPE, vous n'êtes pas exonérés de ces démarches à effectuer tous les ans. Alors, autre question, cette fois-ci, sur la conservation des versions plus anciennes du DUER, puisqu'on le met à jour tous les ans, on empile les versions les unes derrière les autres. Doit-on conserver ces versions plus anciennes et pendant combien de temps ?
Alors oui, il faut les conserver impérativement, ne serait-ce que d'abord pour se ménager la preuve de ce qu'on avait bien en tant qu'employeur rempli son obligation d'établissement et de mise à jour du document unique. Ensuite, parce qu'en cas de contentieux avec un salarié ou un ancien salarié, évidemment qu'il faudra se référer à la version du document unique qui était en vigueur au moment qui concerne le litige. Donc, on conserve le document unique et les versions précédentes aussi parce que quand on a les versions précédentes, eh bien, on actualise plus facilement. On conserve la même démarche, mais on actualise plus facilement. Donc, on conserve impérativement les anciennes versions et ça sans limitation de durée. Voilà.
Très bien, c'est très clair. Merci beaucoup. Alors, venons-en maintenant au rôle du CSE et de la CSSCT dans la création et la mise à jour du DUER. Quel rôle ont les élus de CSE dans l'élaboration ou la mise à jour de ce document ? Et autre question que des élus nous ont posée, le CSE doit-il être uniquement informé ou également consulté sur ce sujet ?
Alors, dans l'élaboration à proprement parler, le seul responsable de l'élaboration, c'est l'employeur. Donc, c'est une obligation qui s'impose à l'employeur et pas aux élus de CSE. Ensuite, sur l'actualisation du document unique, on peut avoir des interprétations qui sont un peu divergentes puisque jusqu'à présent, le Code du travail ne tranche pas la question de savoir si le CSE doit être consulté sur les mises à jour du document unique. On a, dans le contexte épidémique qu'on connaît, des instructions ministérielles, une instruction notamment du ministère du Travail, qui a précisé que, effectivement, le CSE devait être consulté sur la mise à jour du document unique d'évaluation des risques et associé à la démarche d'actualisation. Néanmoins, ça n'est qu'une instruction. Vous avez évidemment des contentieux qui sont apparus dans le cadre de cette crise sanitaire. Il y en a un qui a un peu plus marqué l'actualité que les autres, c'est le contentieux Amazon. Dans le cadre d'un arrêt de la Cour d'appel de Versailles du 24 avril 2020, où la Cour d'appel a clairement pris position en faveur d'une consultation du CSE dans le cadre de cette démarche d'actualisation en y associant non seulement le CSE central mais aussi évidemment les comités d'établissement. Voilà. Évidemment c'est un cas d'espèce particulier puisque là en l'occurrence Amazon n'avait absolument pas associé les représentants du personnel à cette démarche. À l'inverse, il y a d'autres juridictions, notamment le tribunal judiciaire de Lyon, mais dans une espèce qui était tout à fait différente, qui a estimé que la consultation du CSE ne s'imposait pas dans le cadre d'une actualisation du document unique, étant précisé que, quand je dis que l'espèce était différente, c'est que l'entreprise, c'était Adeco en l'occurrence, avait déjà largement associé le comité central aux démarches qui étaient mises en place à l'époque. Donc, les représentants du personnel étaient quand même tenus relativement associés à cette démarche ce qui n'était pas le cas dans l'arrêt Amazon, raison pour laquelle je pense que la Cour d'appel de Versailles avait pris cette position, voilà, en faveur d'une consultation. À minima, évidemment, on ne peut que conseiller aux employeurs d'informer le CSE sur justement ces actualisations, parce que le CSE, c'est un appui aussi pour l'employeur dans ce type de démarche, parce qu'il va mener des enquêtes, ou il va être confronté à des informations dont il va pouvoir faire part à l'employeur et qui vont permettre l'amélioration de cette mise à jour.
Tout à fait. Donc, amis élus de CSE, nous avons un rôle à jouer et prenons notre part dans ce document unique d'évaluation des risques. Alors justement, une question qu'un élu nous a fait parvenir. Dans son entreprise, un employeur a refusé de faire figurer un risque dans le DUER. Les élus de CSE ont-ils un recours possible?
Alors, il n'y a pas de recours, c'est-à-dire juridictionnel, qui soit précisément destiné à faire ça, enfin, à faire figurer un risque au sein du document unique. En revanche, évidemment, il y a l'aspect discussion avec l'employeur, puisqu'encore une fois, l'employeur a évidemment tout intérêt à prendre en compte un risque qui lui serait signalé. Et ensuite, j'allais dire au-delà, de manière indirecte, il y a certaines actions qui vont permettre d'aboutir in fine à cette réévaluation du document unique. Et je pense notamment aux dispositifs qui sont prévus en matière d'alerte, de droit d'alerte du CSE, puisque il y a évidemment plusieurs types d'alerte. Alors, c'est pas l'objet de notre discussion aujourd'hui, mais dans ce type de procédure, l'inspection du travail peut être amenée à intervenir. Le conseil de prud'homme peut aussi être éventuellement saisi si vraiment il y a un point d'achoppement entre l'employeur et les élus. Et donc, finalement, de manière indirecte, dans ce type de situation bien spécifique, eh bien, l'employeur va pouvoir se trouver contraint, finalement, de mentionner ce risque qui ne figurait pas au sein du document qu'il avait établi. Bon, j'ajoute que sur un plan, si vous voulez, l'employeur, enfin, on en parlera un peu plus tard, je crois, dans le cadre de la formation, mais l'employeur, il a donc cette obligation de sécurité de résultat, et il y a aussi la notion de faute inexcusable de l'employeur, qui est, vous le savez, voilà, quand l'employeur a exposé ses salariés à un danger dont il aurait dû avoir conscience, il n'a pas mis en œuvre des mesures destinées à protéger ses salariés. Bon, dans ce cadre-là, on pourrait imaginer qu'un employeur alerté par son CSE sur un risque et qui finalement aurait refusé de mentionner ce risque au sein du document unique, pourrait commettre une faute inexcusable, voilà, si on arrive à démontrer que justement il a été alerté à plusieurs reprises par son CSE. Donc bon, encore une fois, l'employeur a tout intérêt à tenir compte de ce que disent les élus de son entreprise.
Et puis, pour les élus, n'hésitez pas également à prendre contact peut-être avec la médecine du travail, qui pourra être aussi un relais dans vos préconisations. Le CSE peut-il faire appel à un expert pour établir ses préconisations sur le DUER? Et je sais qu'il y a des employeurs qui demandaient s'ils pouvaient faire appel aussi à des experts pour le rédiger.
Oui, alors là, ce ne sont pas nécessairement les mêmes experts, mais effectivement, vous avez le Code du travail qui autorise, dans certains cas spécifiques, le CSE à avoir recours à des procédures d'expertise et à des experts habilités, donc notamment en cas de risque grave identifié actuel, en cas d'introduction de nouvelles technologies ou pour préparer les négociations, notamment sur l'égalité hommes-femmes. Et puis ensuite, vous avez une disposition du Code du travail qui permet au CSE de faire appel à tout type d'experts rémunérés par ses fonds pour la préparation de ses travaux. Donc, on peut tout à fait évidemment entendre et admettre qu'un CSE fasse appel à un expert, pour se faire aider dans la définition des risques et la présentation que le CSE va ensuite en faire à l'employeur. Et évidemment que les employeurs peuvent aussi avoir de leur côté recours à des experts, on a déjà abordé ça tout à l'heure, des experts, soit des entreprises privées évidemment, soit des organismes publics ou parapublics.
Très bien, merci, merci beaucoup. Alors justement, qui doit rédiger ce DUER et à qui le communiquer ? Donc, qui peut rédiger le DUER et ses mises à jour ? Est-ce obligatoirement un salarié des ressources humaines ? Vaut-il mieux confier cette tâche à un juriste ou à un avocat ? Et quel rôle peut avoir la médecine du travail sur la rédaction et la mise à jour du DUER ?
Alors, comme on l'a déjà évoqué, en fait, c'est l'employeur et lui seul qui est responsable de la rédaction. Alors après, quand je dis l'employeur, évidemment qu'il peut déléguer cette compétence à un salarié, à quelqu'un des ressources humaines ou un expert, un salarié expert de son entreprise. Ça, c'est évidemment une possibilité. En revanche, il ne peut évidemment pas déléguer cette compétence aux élus du CSE qui ne sont là qu'en appui, mais encore une fois, la responsabilité de la rédaction de l'établissement de ce document, elle incombe à l'employeur. Et ensuite, évidemment, ils peuvent se faire épauler et aider par la médecine du travail, qui est un intervenant privilégié, puisque par définition, il connaît les risques, il connaît l'entreprise et les différents postes de travail de l'entreprise, il intervient régulièrement d'ailleurs dans l'entreprise, il établit la fiche de prévention. Donc, la médecine du travail, c'est un interlocuteur privilégié qui va aider l'employeur voilà, dans la définition, dans l'évaluation de ses risques. Ensuite, évidemment, l'entreprise peut faire appel, encore une fois, à tout type de prestataire extérieur, y compris extérieur. En revanche, ce qu'il faut bien garder en tête, c'est que même si l'employeur fait appel à une structure extérieure pour établir complètement ce document unique, il restera, lui, vis-à-vis de ses salariés, le seul responsable. Il ne pourra pas déléguer cette responsabilité à une entreprise tierce à qui il aurait confié la rédaction de ce document.
Et il y a l'un des internautes qui nous posait la question tout à l'heure sur justement le enfin, ils avaient fait appel à une société tierce pour rédiger son DUER et se demandaient s'ils étaient obligés de passer par cette même société pour la mise à jour. La réponse est bien évidemment non.
Absolument pas.
Non, vous avez établi avec eux les risques inhérents à votre activité, mais vous n'êtes pas obligé de repasser forcément par eux pour les mises à jour. Et donc, justement, sur les structures et organismes qui peuvent être à même d'accompagner une entreprise dans la rédaction de ce document, quel type de structure conseilleriez-vous ? C'est une question qui est revenue assez fréquemment également.
Bon, alors évidemment, encore une fois, je ne vais pas reparler des entreprises privées. Il y a énormément d'entreprises privées qui sont spécialisées voilà, ou qui viennent en tout cas en soutien aux chefs d'entreprise pour la rédaction de ce type de document. Mais vous avez ensuite évidemment des organismes tels que l'INRS qui établit des recueils ou j'allais dire des fiches pratiques sur l'évaluation des risques, la CARFAT, évidemment, qui peut venir là encore en soutien. Vous avez la MSA qui établit des documents sur l'évaluation des risques par branche d'activité. Donc voilà, ce sont autant d'organismes qui peuvent aider de manière directe ou indirecte dans la rédaction de ce document, soit parce que vous les contactez, soit parce que vous regardez tout simplement les brochures que ces organismes éditent.
Et sur l'aspect Covid, les ajouts Covid dans le DUER, n'oublie pas que le ministère du Travail a mis en place aussi des fiches métiers qui cadrent un peu plus les risques en fonction de l'activité. Ça peut vous aider également à rapporter les risques liés à la crise sanitaire dans votre DUER. Alors, autre question sur la communication du DUER. Doit-on déposer le DUER à la DRETS, au Prud'homme et à la médecine du travail ?
Non. Alors, il n'y a pas d'obligation de dépôt, que ce soit à la DRETS ou ancienne directe ou au Prud'homme, ni auprès de la médecine du travail. En revanche, il est impératif que ce document soit tenu à la disposition de la médecine du travail. C'est une obligation qui figure dans le Code du travail.
Et puis, en cas d'inspection de la DRETS, l'inspecteur peut tout à fait demander à avoir accès à ce document également. Alors, au niveau de la communication de ce document auprès des salariés, doit-il être communiqué à l'ensemble des salariés ou uniquement aux élus du CSE?
Alors, il n'y a pas d'obligation de communication, mais le Code du travail nous dit que l'employeur doit tenir à la disposition des salariés, alors de l'ensemble des salariés, du CSE, du médecin du travail, des agents de l'inspection du travail, des agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale et des inspecteurs de la radioprotection. Donc, ce document, le document unique, doit être tenu à la disposition de toutes ces personnes que je viens de lister. Donc, pas de communication directe aux salariés, mais voilà, on tient à disposition et on informe les salariés. Alors, comme je vous l'ai indiqué tout à l'heure, comme le support du document unique est libre, c'est-à-dire qu'il peut être soit papier, soit en version dématérialisée. Si, par exemple, il est tenu à disposition des salariés en version papier ou dématérialisée, il faut que vous affichiez dans l'entreprise un avis indiquant aux salariés la manière dont ce document, papier ou dématérialisé, sera consultable. Idéalement, quand vous avez un règlement intérieur, et bien vous affichez à l'emplacement, à côté de l'emplacement du règlement intérieur, voilà, ces modalités d'accès pour que les salariés puissent consulter ce document facilement voilà, sur le lieu de travail ou dans les voies à proximité.
Oui, petit avis de la modeste élue de CSE que je suis. Enfin, c'est vraiment important de communiquer ce document à l'ensemble des salariés. Ils doivent vraiment se l'approprier pour aussi se préserver des risques inhérents à leur activité. C'est vraiment très important. Alors, venons-en donc à notre dernière partie. Nous avons reçu en effet de nombreuses questions sur les risques qu'encourent les employeurs si le DUER n'était pas établi ou n'était pas mis à jour. Pouvez-vous nous présenter un petit panorama de la jurisprudence sur ce sujet?
Oui, alors en tout cas, à minima, un petit panorama des sanctions civiles et pénales qui existent. Que ça soit pour l'employeur personne physique ou pour la société personne morale, puisque là les sanctions vont être un peu différentes. Alors d'abord, le Code du travail nous dit que les employeurs qui ne transcriraient pas ou qui ne mettraient pas à jour les résultats de l'évaluation des risques sont passibles d'une contravention de cinquième classe, c'est-à-dire concrètement d'une peine d'amende de 1 500 €. Ensuite, comme je vous l'avais, comme on l'avait brièvement évoqué tout à l'heure, il y a évidemment des incidences quand il y a un accident de travail et que le document unique d'évaluation des risques serait soit inexistant, soit pas actualisé du tout. Là, vous pouvez avoir des conséquences en matière de faute inexcusable, une reconnaissance de faute inexcusable si le salarié en faisait la demande, qui va générer pour l'entreprise, le paiement d'une rente majorée, l'indemnisation de tous les préjudices qui auraient été occasionnés aux salariés à l'occasion de cet accident de travail dès l'instant où la faute inexcusable est retenue. Ensuite, vous pouvez avoir des sanctions pénales quand on considère qu'il y a eu une violation délibérée d'une obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou par le règlement. Dans ces cas-là, et en fonction des conséquences de cet accident pour le salarié, eh bien, l'employeur pourrait être condamné à une peine relativement lourde, hein, puisqu'au minima, ça peut aller d'un an de prison jusqu'à 5 ans d'emprisonnement, assorti d'une peine d'amende allant de 15 000 à 75 000 € d'amende en cas de décès du salarié. La structure, la société personne morale peut elle aussi être condamné à de lourdes peines d'amende, étant précisé qu'on multiplie par 5. Dans ces cas-là, voilà, ce qui est prévu pour une personne morale, c'est multiplié par 5 pour une personne morale, oui, j'espère que je me suis
trompée. C'est ce qui est prévu pour une personne physique et multiplié par 5 pour
une personne morale. avec d'autres conséquences et des peines complémentaires, type interdiction d'exercer une activité, etc. Donc, ça peut être des sanctions particulièrement lourdes, que ce soit pour l'employeur personne physique ou pour la personne morale.
En effet, ça ne donne pas très envie de se mettre dans ces positions-là pour les employeurs qui nous écoutent. Donc, ne perdez pas de vue que les sanctions peuvent être lourdes. Alors, pour conclure, un petit peu dans toutes nos communications autour de cette dernière webconférence avant l'été, nous vous avions parlé d'une surprise. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce dont il s'agit. Et ça va répondre aussi à d'autres questions que vous nous aviez envoyées auparavant et qui sont apparues aussi aujourd'hui dans le chat. Vous avez été nombreux à nous demander s'il existait des modèles de DUER ou des trames préexistantes de ce document. Oui, il en existe et nous en proposons sur Jury Travail. Et la petite surprise, donc, c'est pour vous remercier de votre présence et de votre fidélité tout au long de ces webconférences. Nous vous offrons un code promo qui vous fera bénéficier d'une réduction de 30% sur notre site. Donc, ma collègue Alice est en train de vous communiquer les URL des pages des deux produits dont je viens de parler, le DUER physique et le DUER dématérialisé, ainsi que le code promo qui vous donnera la réduction. Donc, ce code promo est valable jusqu'à mardi prochain. N'hésitez pas à vous en servir. Voilà, j'espère que ce format vous aura plu et que vous aurez obtenu réponse à vos questions. N'hésitez pas à contacter Maître Lessol Auger pour tout conseil juridique. Vous avez ses coordonnées à l'écran. Et si vous avez besoin d'une information juridique, vous pouvez tester notre service gratuitement en posant votre première question à nos juristes. Là encore, Alice est en train de vous transférer le lien par chat. Alors, j'invite également les élus à nous rejoindre dans les deux groupes privés sur Facebook et sur LinkedIn. Ça nous permettra de garder le contact pendant cette période estivale. Et là encore, Alice est en train de vous transmettre ces liens. Donc, merci encore à vous, Maître Lessol Auger, d'avoir accepté d'animer cette webconférence avec moi. C'était un plaisir. J'espère qu'il en a été de même pour vous. Je vous dis au revoir. Oui. Et
au
bientôt.
Revoir, à très bientôt. À bientôt.
Et je vous souhaite à tous d'excellentes vacances et je vous donne rendez-vous au mois de septembre pour une nouvelle saison de webconférence. Alors, vous avez été nombreux à vous plaindre des fois de l'outil que nous utilisions. En septembre, nous aurons un tout nouvel outil qui fonctionnera bien mieux. Et puis, une petite pensée aussi pour une collègue, Alexandra, qui avait l'habitude de répondre à vos questions par chat avec Alice. Elle est actuellement en arrêt maladie. On a une grosse pensée pour elle et on lui souhaite un prompt rétablissement, pardon, et on lui envoie plein d'encouragement. Et je vous remercie vraiment encore tous et toutes d'avoir assisté à cette webconférence. Au revoir et prenez soin de vous.